Imaginons qu'en arrivant dans ce temple ce matin, nous découvrions un immense tohu-bohu. Vous savez que ce mot est un mot hébreu, intraduisible ou difficilement traduisible, et qui désigne, dans la création, dans le livre de la Genèse, le commencement, l'état de la création. Alors imaginons qu'en ouvrant la porte, une poule se ferait la belle en caquetant entre nos jambes. Un bœuf ruminerait son désarroi en dévorant le papier centenaire de notre Bible, appliquant d'ailleurs alors littéralement l'interpellation lue chez le prophète Ézéchiel de manger l'Écriture. Un troupeau de moutons bêlerait de concert. La table de communion serait envahie d'ordinateurs, d'enveloppes, de pièces et de billets, et tout cela dans un bruit important. Nous aurions, je pense, la plupart d'entre nous, très probablement envie alors de tresser un fouet et de renvoyer tout ce beau monde dehors. La maison du Père n'est pas une maison de trafic. Faire comme Jésus en son temps. Jésus de Nazareth, celui qui prêche l'amour du prochain. Ce Jésus-là. Jésus que l'on sacralise souvent dans une image pieuse d'apôtre de la non-violence et adepte d'un amour sirupeux. Ce Jésus-là. Ce Jésus qui rentre dans le temple dans une froide colère et prend un fouet. Ce Jésus-là nous renvoie une image violente, une image que on préférerait laisser en dehors du temple. Pourtant, une image de l'évangile de Jean. Une image tellement violente que les disciples se sentent obligés, dans notre texte, de justifier cette attitude en citant le psaume 69. Le zèle de ta maison me dévorera. Drôle de justification d'ailleurs. Car les exemples ne manquent pas au cours des siècles d'actes abominables commis au nom du zèle religieux. Alors Jésus n'est-il qu'un fanatique qui veut par le fouet et l'invective asseoir sa nouvelle religion? Certainement pas. Tout d'abord, ce Jésus dans l'évangile de Jean ne s'en prend pas aux marchands personnellement. Ni physiquement. Il les déplace avec brusquerie, certes, mais il s'en prend à leur commerce et non pas à eux. La psychologie moderne nous apprend la communication non violente. Vous savez, où il ne faut pas, quand on est en colère contre quelqu'un, l'accuser, tu ne vaux rien, tu es méchant, mais il faut au contraire mettre en question les actes ou les paroles. Ce que tu m'as dit me fait mal. Ce que tu fais me dérange. Vous connaissez ça. C'est ce que fait Jésus, nous n'avons rien inventé. Il s'agissait, dans ce que Jésus remet en question, de sacrifices et de proposer dans le temple des monnaies autorisées pour les offrandes. Or, tout cela avec l'arrivée de ce Christ, de ce Fils de Dieu, avec cette bonne nouvelle, étaient les signes d'une économie désormais périmée. La portée symbolique de la colère de Jésus dépasse le simple coup de balai pour redonner au temple une certaine tenue. Il ne s'agit pas pour Jésus du petit nettoyage de printemps, pour rendre le temple plus silencieux, plus propice à la méditation. Non, il s'agit dans cet évangile d'un grand bouleversement, d'un changement d'économie. Nous passons de l'économie du sacrifice à la liberté de la grâce. Nous passons de l'économie des œuvres au don gratuit. Jusqu'à présent, il fallait faire des sacrifices à Dieu. Les croyants avaient compris cela comme une obligation pour gagner cet amour. À Pâques, il fallait monter à Jérusalem et y faire un sacrifice. Et c'est cette relation d'échange du donnant-donnant que Jésus veut abolir, quitte à tresser un fouet. Sûrement, en ce début d'année, pour chacun de nous, dans ce temps de recommencement, ce temps des bonnes résolutions, il est juste et bon de nous souvenir de ce bouleversement. Le début d'année est un temps propice pour nous remémorer ensemble de ce qui constitue le cœur de nos vies de croyants. Alors, au lieu de vous souhaiter bonheur, santé et réussite, ce qu'il est d'usage de faire, bien sûr, mais qui, en passant, n'est pas tellement d'évangile, je vous souhaiterais plutôt ce matin un heureux changement d'économie. Car en effet, nous avons tous dans nos actes, mais aussi dans nos intentions, l'envie de nous concilier la bienveillance de Dieu. Vous savez, ce sont tous ces moutons de nos vies que nous essayons de cacher d'un coup de balai sous le tapis de nos bonnes intentions. Nous avons chacun dans nos pensées cet esprit de négociation avec Dieu et ce désir aussi de comprendre toujours ce qu'il nous arrive en trouvant des explications. Et cela revient un peu comme un bœuf sur notre toit. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela ? Et cela encombre notre relation au Dieu d'amour. Mais c'est humain. Voilà, nous sommes ainsi. Et c'est cela le péché. S'enfermer, se couper de ce don gratuit de Dieu pour nous, de cette liberté qu'il nous offre. Choisir une économie de la condition, des conséquences, du donnant-donnant, au lieu de vivre de la liberté donnée par Dieu. Alors je le crois, nous avons nous aussi besoin d'être secoués dans nos vies, secoués par la juste colère de Dieu. Et si le temple est notre cœur et notre corps, comme les marchands qui encombrent le temple, nous avons aussi besoin de nous débarrasser de tout ce qui nous encombre et qui gâche nos vies. Alors, je n'ai pas prévu de fouet ce matin, ni pour moi, ni pour vous. Mais c'est sûr, je crois qu'il est des temps où nous avons plus que besoin de nous faire violence. Ou bien de laisser la parole elle-même nous débarrasser de nos entraves. C'est-à-dire simplement d'ouvrir nos cœurs et de laisser ce Dieu d'amour nous façonner. L'annonce fracassante de notre passage va de pair dans l'action de Jésus avec l'annonce de sa mort et de sa résurrection. Et le texte prend même soin de préciser « Jésus parlait de son corps ». Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Il y a dans notre corps un peu du ressuscité. Les drames de nos vies, les aléas de nos carrières, les affres de nos relations, la dureté de la société ou encore la violence et l'injustice du monde détruisent cette part du Christ en nous. Mais 3 jours après, elle se relèvera. Nos valses hésitations, nos peurs, nos culpabilités détruisent cette part du Christ en nous. Mais 3 jours après, son temple se relèvera dans nos corps. Voilà cette bonne nouvelle pour démarrer l'année. Voilà notre feuille de route. ne jamais nous désespérer de nos fêlures, toujours nous réjouir de la grâce offerte dans la parole vivante et vivifiante qui nous façonne chaque jour de nos vies. Amen.